Frédéric Gagnon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez co-dirigé Alliances on Power Politics in Trump Era et vous signez le chapitre sur les relations entre les États-Unis et le Canada, dans lequel vous montrez combien la présidence Trump a déstabilisé la relation privilégiée qu'entretenaient jusque-là les deux pays voisins.
Oui, donc c'est un ouvrage qui porte sur la politique étrangère de Trump et comment Trump a redéfini les relations internationales, la politique étrangère des États-Unis. Et dans le chapitre, oui, je me concentre sur la relation que Trump entretient avec le Canada. Le Canada est un allié traditionnel des États-Unis. On décrit souvent la relation canado-américaine comme étant une relation spéciale, extrêmement cordiale. Et Trump a rompu avec ses prédécesseurs en adoptant, disons, un discours différent de celui de Bill Clinton, de George W. Bush ou de Barack Obama plus récemment, qui disait que la relation commerciale avec le Canada était extrêmement bénéfique pour les intérêts économiques américains. Mais Trump a rompu avec ses discours en disant, notamment dès la campagne électorale de 2016, que les États-Unis avaient signé un accord de commerce avec le Canada et le Mexique, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui était, bon, selon Trump, le pire accord de commerce jamais signé par les États-Unis. Donc, rien de moins. Et ça prend un peu les dirigeants canadiens par surprise, parce que on avait l'habitude de dire que ces relations économiques entre le Canada et les États-Unis étaient très, très bénéfiques pour les deux sociétés. Donc, Trump a imposé aussi des tarifs douaniers, un peu comme il l'a fait à l'égard de l'Europe,
à l'égard de la Chine. Sur l'acier et l'aluminium.
Sur l'acier et l'aluminium. Et d'ailleurs, ces jours-ci, on en parle à nouveau parce que Trump a décidé d'aller de l'avant encore une fois avec des tarifs sur l'aluminium cette fois.
Alors, 4 ans plus tard, à l'aune de ce qui s'est passé justement entre les États-Unis et le Canada, quelles sont les leçons que l'on pourrait tirer de la façon dont Donald Trump appréhende les relations avec un allié?
Bon, il a une vision géoéconomique bien particulière et c'est un peu ce que je conclus dans le chapitre. Il ne fait pas la distinction entre les alliés traditionnels des États-Unis et les autres pays. Bon, c'est une vision héritée de son parcours d'homme d'affaires, hein, disons, qui a œuvré dans le secteur immobilier dans la ville de New York durant les années 80-90. Et on est venu à se dire qu'en affaires, il n'y a pas d'amis, que ses compétiteurs et lui peuvent très bien recourir à tous les moyens pour gagner la bataille économique. Ça, c'était sa vision à titre d'homme d'affaires. Il semble qu'il l'applique à sa vision des relations internationales maintenant qu'il est président.
Ça a été effectivement une surprise pour les Canadiens, pour Justin Trudeau. Le mode de négociation a totalement changé.
Oui, le mode de négociation a changé parce que Trump aime vous déstabiliser. Et même si vous êtes traditionnellement un ami des États-Unis, il va le faire à votre égard. S'il a l'impression que vous avez adopté des politiques économiques défavorables aux intérêts américains. Et il a une vision, M. Trump, électoraliste aussi de ses relations économiques internationales, dans la mesure où il va, surtout à l'approche d'une élection, essayer de mobiliser ses électeurs en les convaincant qu'il se tient debout et qu'il défend leurs intérêts, même dans la relation avec des alliés comme le Canada. Et on l'a vu au cours des dernières années tenter de courtiser les électeurs du Wisconsin, un État qu'il avait gagné en 2016, en disant « ben, on va s'assurer que les producteurs laitiers du Wisconsin puissent exporter davantage de leurs produits au nord de la frontière, au Canada, où on a adopté des politiques déloyales envers eux ». Et là, ben, on parlait tout à l'heure des tarifs sur l'aluminium. À l'approche des élections de 2020, Trump semble se dire que ça peut être payant sur le plan électoral d'imposer de nouveaux tarifs sur l'aluminium parce que il y a des travailleurs américains qui verront ça d'un bon œil dans des états clés de l'élection de 2020, notamment la Pennsylvanie et l'Ohio. Donc, cette vision géoéconomique, finalement, c'est l'Amérique d'abord.
Alors, face à ce président imprévisible, on a vu Justin Trudeau osciller entre deux positionnements. Dans un premier temps, on a bien senti qu'il voulait éviter les tensions. Et puis, au fil des mois, il a été plus incisif.
Oui, c'était pas évident pour Justin Trudeau de gérer cette relation avec le président Trump. Bon, ça, c'est devenu un lieu commun, un cliché de le dire, mais c'est un président très imprévisible. Un président qui communique aussi par le biais de canaux de communication qu'on utilise peu en diplomatie jusqu'à ce qu'il soit élu à la Maison-Blanche, c'est-à-dire les médias sociaux et Twitter. Et M. Trudeau a géré la situation avec beaucoup de calme au départ, en disant, je ne suis pas nécessairement d'accord avec M. Trump, mais on ne peut pas mettre cette relation en péril en s'exposant à des conflits personnels avec le président Trump, qui n'aime pas qu'on l'attaque, qu'on le critique. Donc, Justin Trudeau a fait preuve de prudence au départ.
Il change d'ailleurs l'ambassadeur à ce moment-là.
Tout à fait. Il change l'ambassadeur. Il y a aussi une nouvelle ministre des Affaires étrangères qui entre en poste en remplacement de M. Stéphane Dion, qui était le ministre des Affaires étrangères de Trudeau jusque-là. Et c'est Chrystia Freeland qui va remplacer M. Dion. Et Mme Freeland a une très, très fine connaissance des questions commerciales. Elle est peut-être un peu moins dure dans ses critiques à l'égard de M. Trump que l'était Stéphane Dion. Donc, on voit que M. Trudeau fait preuve d'une grande prudence, mais en cours de route, M. Trudeau n'hésitera pas à y aller de mots un petit peu plus critiques, durs à l'égard de M. Trump, notamment lorsque M. Trump décidera d'aller de l'avant avec ses fameux tarifs sur l'acier et l'aluminium, au moment même où on renégocie l'ALENA. Et donc, M. Trudeau en viendra à dire que M. Trump fait preuve d'un manque de sympathie à l'égard des Canadiens et que ces tarifs-là sont tout à fait injustes.
Justin Trudeau renforcera aussi l'équipe diplomatique aux États-Unis. Est-ce que vous diriez que la présidence Trump a... Parce qu'on se souvient que quand Justin Trudeau arrive au pouvoir, donc quelques mois avant la victoire de Donald Trump, tout tourne autour de Canada is back, donc le retour du Canada sur la scène internationale. Finalement, au cours des 4 dernières années, on n'a pas véritablement vu de retour du Canada. Est-ce que la gestion de la présidence Trump a parasité les velléités de Justin Trudeau en matière de politique étrangère?
Ça a obligé Justin Trudeau à se concentrer encore plus que ce qu'il avait prévu sur la gestion de la relation avec les États-Unis. Avant 2016, Justin Trudeau et Barack Obama s'entendaient très bien.
On parlait de bromance.
Une bromance. Ils se ressemblent, ils ont à peu près la même vision, la même conception des relations internationales. Et comme bien des observateurs, l'équipe de Trudeau estimait que Mme Clinton, Hillary Clinton, avaient les meilleures chances de gagner en 2016 et qu'on assisterait à une espèce de continuité à Washington. Donc, M. Trudeau disait à ce moment, Canada is back, justement. Le Canada va jouer un rôle plus important dans les missions de paix onusiennes. Le Canada, va faire toutes sortes de choses à l'international. Mais là, Trump a été élu. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des documents, notamment des autorités américaines, qui font un examen des débats à Ottawa sur la gestion de la relation américaine. Ces documents illustrent que Trudeau en vient à se doter d'une politique étrangère « America first ». Donc l'Amérique d'abord également, parce qu'on doit absolument tout investir ou presque dans la préservation de ces liens hyper cordiaux avec les États-Unis. On doit essayer de les préserver le plus possible.
Ouais, parce qu'il... Un chiffre qu'on n'a pas donné pour le moment, 80% des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis. 20% de votre PIB.
Oui, donc c'est très important. Et c'est vrai que ce chiffre-là, vous faites bien de le mentionner parce que la moindre perte sur ce plan peut mener à une chute de l'emploi au Canada. Il y a des millions d'emplois au Canada qui dépendent de la relation avec les États-Unis. Donc, Justin Trudeau pense aussi à sa réélection. À ce moment-là, il a été réélu. Mais c'est vrai qu'au Canada, il y a beaucoup d'électeurs qui surveillent la manière dont ils gèrent la relation avec Trump à ce moment-là. Et il va décider d'investir beaucoup, beaucoup d'énergie et de ressources dans cette relation bilatérale. Alors qu'en Europe, justement, et à l'ONU, on attendait peut-être plus du Canada. Et c'est comme si Trump était devenu l'étoile guidant la politique étrangère du Canada là, dès l'élection de 2005.
Et le Canada ne réussira pas, il y a quelques mois, à décrocher une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors vous parliez des Européens. On note que l'Union européenne tente de trouver une position médiane vis-à-vis de la Chine, alors que Donald Trump a déclenché une guerre commerciale avec la Chine. Le Canada, lui, sur différents dossiers impliquant la Chine, s'est retrouvé embarqué, on va dire, à son corps défendant dans cette guerre, non ?
Oui, il y a, dans la renégociation de l'ALENA, c'est un accord de commerce qui implique le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais au fond, lorsque Trump et son équipe négocient le nouvel ALENA, ils ont presque autant en tête la Chine que le Canada et le Mexique. C'est-à-dire que les autorités américaines vont essayer de signer un accord avec le Canada et le Mexique qui permettrait de déjouer les plans commerciaux de la Chine en prévenant, en réduisant les exportations chinoises, bon, d'acier et d'aluminium, notamment en sol nord-américain. Et il y a aussi une disposition de cet accord, ce nouvel ALENA, qui dit, par exemple, que si le Canada veut négocier un accord avec la Chine à l'avenir, les autorités américaines devraient avoir un droit de regard sur cet accord-là. Bon, il y a aussi l'affaire Meng Wanzhou. Il y a des
ressortissants canadiens. La fille du fondateur de Huawei.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un dossier épineux de la relation canado-américaine également, parce que la dame en question a été arrêtée en sol canadien. Il y a une demande d'extradition aux États-Unis. Ça a froissé la Chine, qui détient également des ressortissants canadiens. Donc, deux ressortissants canadiens ont été arrêtés en Chine. Et là, il y a ce jeu de représailles et Ottawa est un petit peu pris entre les États-Unis et la Chine dans ce dossier-là. Ça, on en parle beaucoup au Canada et il est vrai que Trudeau consulte régulièrement le président Trump sur la marche à suivre dans ce dossier-là. Et Ottawa ne veut pas froisser la Chine nécessairement, mais ne veut pas froisser l'administration Trump non plus, qui pourrait justement utiliser de nouveaux tarifs pour faire connaître son mécontentement à l'égard de la politique d'Ottawa dans ce dossier-là.
Donc, jeu d'équilibrisme entre les deux puissances. Au final, qu'en sera-t-il d'une future relation américano-canadienne? Vous pensez qu'elle est définitivement abîmée?
Tout va dépendre de l'élection de 2020, je vous dirais. Et si Trump est réélu, ce qu'on a vu durant ses quatre premières années à la Maison-Blanche pourrait devenir, une vision un petit peu plus répandue aux États-Unis. C'est-à-dire que, et ça on l'a vu, on a fait beaucoup d'enquêtes sur le terrain avec des élus républicains dans des capitales d'État américains avec lesquels le Canada entretient des liens importants. Et on voit que le président des États-Unis peut être vu comme un producteur de normes. C'est-à-dire que lorsque Trump se prononce de cette façon pour décrire la relation avec le Canada, il incite d'autres acteurs plus locaux à concevoir le Canada de cette manière. Si Trump est réélu, il va falloir s'habituer à ce type de discours. Et s'il quitte la Maison-Blanche en 2020, ça aura laissé des traces. Mais évidemment, le retour d'une administration démocrate à la Maison-Blanche permettrait probablement à Justin Trudeau de respirer un petit peu, c'est-à-dire une espèce de retour à la normale ou du moins à ce qu'on avait observé durant la présidence Obama. Mais quand même, Joe Biden est assez pragmatique dans sa vision des affaires internationales et on sait que sur le plan personnel, Joe Biden et Justin Trudeau se connaissent et la relation, je ne dirais pas qu'il y aurait une bromance nécessairement entre Biden et Trudeau comme il y en a eu une entre Obama et Trudeau à l'époque, mais presque.
Merci Frédéric Gagnon.
Merci à vous.